Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast Elle s'attable.
Elle s'attable.
Au fil des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable. Une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de d'Elle s'attable, le podcast d'Elle à table. Aujourd'hui, nous sommes dans le 9e arrondissement de Paris, dans un restaurant qui a ouvert il y a assez peu de temps, il y a quelques semaines. Il a comme caractéristique d'être tout bleu, mais d'un bleu roi. Le même bleu que celui qu'il y a sur les potiches chinoises et sur la porcelaine. Et ça n'est pas pour rien, car c'est un restaurant chinois. Mais un restaurant chinois d'un genre nouveau. Au rez-de-chaussée, vous verrez, c'est extrêmement moderne. Et en même temps, ça vous transporte à Shanghai. Et au premier étage, c'est encore mieux, parce que là, on a carrément des petits boudoirs avec des canapés frangés, des tables basses chinoises laquées, quelques lanternes blanches et ce bleu éclatant partout. Bienvenue chez Bleu Bao.
Elle s'attable.
Le décor est fabuleux, mais ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est sans doute ce qu'il y a dans l'assiette. Une réelle cuisine chinoise, très éloignée de ce qu'on peut manger dans toutes les gargotes, entre guillemets, et les traiteurs chinois. Et on doit ce restaurant tout bleu à une jeune femme, Céline Chung, qui est déjà là à sa troisième affaire et qui a décidé de vous faire manger de la vraie cuisine chinoise. Bonjour Céline.
Bonjour Danielle.
Merci beaucoup de nous accueillir un petit matin. Chez Bleu Bao, alors que les livraisons se passent au rez-de-chaussée, se font au rez-de-chaussée. Nous allons discuter avec vous de votre histoire qui est particulière et de celle d'être française et étrangère, d'avoir une double culture et de la manière dont cette double culture peut s'exprimer à travers la cuisine.
Je suis ravie vraiment de l'invitation et ravie de vous accueillir là ce matin.
Merci beaucoup. Alors, vous êtes donc une jeune femme, vous avez une trentaine d'années, qui avait grandi en France, mais avec des racines chinoises très fortes, très ancrées. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le début de votre histoire ?
Mes parents sont d'origine chinoise. Ils viennent de la ville de Wenzhou, dans la région de Zhejiang, au sud de Shanghai. Et je suis née à Paris. Et donc, j'ai un peu vécu une espèce de schizophrénie dès l'enfance, parce qu'à la maison, en fait, mes parents me parlaient le dialecte de la ville de Wenzhou. Et ils cuisinaient chinois tous les jours à la maison. Et par contre, quand j'allais à l'école, donc à la maternelle, en primaire, en fait, on parlait français et on mangeait français.
Et donc, c'était une bulle de Chine au sein de la France.
C'est exactement ça. Au centre de Paris, je vivais ma bulle de Chine. Et c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps en famille, parce que c'est une culture très familiale, solidaire. Et donc, on vivait vraiment dans cette bulle chinoise, dans un Paris très moderne. Et donc, je vivais vraiment entre les deux mondes.
Est-ce que ça donne des envies d'échappatoire par moment ou pas, notamment à l'adolescence?
J'étais un peu le cliché quand même de la fille modèle. Donc je suis l'aînée de ma famille et en effet j'ai reçu une éducation traditionnelle et assez stricte de la part de mes parents qui portaient sur moi tous leurs espoirs de réussite et aussi d'ascension sociale parce que voilà, mon grand-père a fui la famine en Chine, on commençait en fait par une histoire de vie très difficile, à pas pouvoir manger comme ils le souhaitaient en fait.
Et comme beaucoup de Chinois, puisqu'on rappelle qu'il y a eu une très grande famine qui a entraîné peut-être plus de 50 millions de morts, on ne sait pas.
Et du coup, c'est vrai que cette histoire-là, en fait, c'est une histoire de famille. Et donc, mes parents voulaient le meilleur pour mon frère et moi. Et donc, ils nous ont, en fait, éduqués pour qu'on ait des bonnes notes à l'école et pour qu'on ait une vie qui ne ressemble pas à la leur.
Alors, vous passez le bac et oui. Vous faites, comme beaucoup de jeunes Français calibrés, entre guillemets, oui. Pour la réussite, vous faites une école de commerce.
Exactement.
Avec l'idée déjà de ce qui allait venir derrière ou pas du tout?
Je pense que j'ai toujours voulu être indépendante et libre. Et du coup, en fait, je me sentais un petit peu enfermée dans ma culture pendant mon adolescence, même pendant mes débuts d'école de commerce, parce que j'étais tiraillée entre être la fille que mes parents voulaient que je sois et mes envies personnelles qui commençaient en fait
à germer
en moi, exactement. Et du coup, j'ai fait une école de commerce parce que je savais que ça allait pouvoir me mener à plein d'opportunités, plein de voies. Et je pense que j'ai toujours voulu mener mon propre projet. Ce qui est important pour moi, c'est de mener un projet qui ait du sens pour moi. Mais en école, je ne savais pas encore quoi.
Vous allez régulièrement en Chine quand même, oui. Pendant votre enfance, votre adolescence, oui. Et le jeune âge adulte. Et vous racontez dans le livre que vous avez publié, qui s'appelle Bao Family, qui raconte un petit peu tout ça et puis qui rassemble beaucoup de recettes, que pendant vos études de commerce, vous avez eu l'occasion d'aller vivre en Chine et de voyager en Chine, et que là, il y a une sorte de prise de conscience.
Oui, en fait, j'allais déjà en Chine quand j'étais jeune, tous les ans, dans la maison de mon grand-père, dans la campagne de Wenzhou. Et donc j'y suis allée pendant 15 ans, mais je n'allais que à Wenzhou. Donc
que dans la campagne de Wenzhou.
Campagne de Wenzhou. Donc j'avais une vision finalement très 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 limitée de la Chine. Et en fait j'ai voulu, quand j'ai fait le choix de ces études à Shanghai, c'est parce que j'avais envie de porter mon propre regard sur la culture chinoise et sortir en fait du regard de ma famille et de mes parents, qui m'avaient montré seulement...
Oui, de la communauté, très fermée.
Très fermée, exactement. Et donc j'avais besoin de l'explorer par moi-même. Et du coup, j'ai fait ces études-là. Et en fait, au lieu de faire des études, j'en ai profité pour voyager dans toutes les régions de Chine. Et c'est là où j'ai goûté les multiples identités culinaires en fait, de la Chine. Dans chacune des régions, tout le monde nous accueille avec de la nourriture. Que ce soit au petit-déjeuner, au dîner. Et en fait, ce geste juste d'offrir à manger, j'ai compris que c'est le geste de voilà, je vous respecte, je prends soin de vous et je vous accueille en fait à travers ça. Et je l'ai vraiment compris à ce moment-là.
La vogue actuelle des restaurants chinois serait plus ou moins due par l'amélioration des relations franco-chinoises. Vous êtes d'accord?
Non, je ne pense pas ça. Parce que j'ai toujours aimé les restaurants chinois sans penser à ça. J'aime beaucoup le canard laqué.
Je mange un potage pékinois. C'est un potage aux nouilles chinoises avec du jambon de Paris et des champignons aussi de Paris, mais ça n'empêche pas que c'est un potage quand même chinois. La nourriture chinoise, pour moi, est une nourriture très appréciable. Malgré qu'il n'y ait pas de pain, je l'apprécie beaucoup.
Et les baguettes?
Non, les baguettes, vous savez, c'est un jeu.
Moi, vous savez, j'ai pas l'habitude tellement de manger au restaurant chinois. Chez moi, je mange que du jambon, alors avec de la salade, alors vous savez, ça change un peu.
Et vous, madame?
Non, profane complètement, c'est la première fois que je viens dans un restaurant chinois, c'est monsieur qui nous a amenés. J'espère y revenir.
La cuisine chinoise existe en France, enfin je mets des guillemets à la cuisine chinoise, existe en France depuis assez longtemps, depuis le début du XXe siècle. Est-ce que c'est ce qu'on peut manger classiquement dans les restaurants chinois? Est-ce que c'est une cuisine très particulière d'une région donnée de la Chine ou est-ce que ça représente quand même un petit peu la diversité de la cuisine chinoise?
Alors, je trouve que la cuisine chinoise dans les pays occidentaux représente finalement l'histoire d'immigration de cette diaspora. Donc, ils viennent de ces régions, typiquement.
Qui est plutôt dans le sud de la Chine.
Exactement. Bah, notamment par le 13e à Paris, qui aujourd'hui est plutôt investi par une communauté Techu, donc qui viennent du sud de la Chine. Et en fait, cette communauté-là, dans son histoire d'immigration, donc a quitté. Enfin, c'est des familles qui ont quitté la Chine, puis ont vécu au Cambodge, au Laos, au Vietnam, et du coup ils se sont inspirés en fait de ces cuisines-là. Et du coup quand ils sont arrivés en France, du coup ils ont proposé finalement la cuisine qu'ils connaissaient, donc une cuisine chinoise, mais inspirée aussi
du sud-est asiatique.
Et donc c'est ce qu'on retrouve. C'est pour ça qu'on a des restaurants avec des devantures Cambodge, Vietnam, Chine.
Ah oui, vous éclairez un mystère, merci. Ça y est, je me suis toujours dit mais comment font-ils pour faire. C'est un petit peu comme si on avait des devantures cuisine finlandaise, espagnole et italienne en même temps chez nous.
C'est exactement ça. Mais en fait, ça vient vraiment de leur histoire. Bien sûr, c'est pas chinoise, mais je trouve que ça reflète quand même leur histoire d'immigration et leur influence du coup culturelle. Et après, dans le quartier de Belleville, on a du coup plutôt la communauté de Wenzhou, celle d'où je viens, donc Belleville et le Arts et Métiers. Donc on a plutôt une cuisine qui est influencée par cette communauté de Wenzhou, donc ça a des saveurs qui sont plus douces, plus acidulées parce que c'est la cuisine de la région de Shanghai. Et après on a bien sûr des cuisines qui sont beaucoup plus régionales, un peu éparpillées dans Paris, donc des cuisines du Sichuan. Et donc je trouve qu'on a vu quand même émerger ces dernières années des restaurants,
des sous-catégories entre guillemets dans la grande cuisine chinoise.
Exactement.
Ce qui est intéressant aussi avec la cuisine chinoise, c'est que c'est une cuisine comme la cuisine française et la cuisine japonaise, qui est une cuisine extrêmement codifiée, extrêmement variée entre la cuisine de rue, entre guillemets, la cuisine de pauvre et la cuisine de cour.
C'est une cuisine qui se mange en fait à toute occasion, dans la rue, en takeaway, tout le temps, du matin au soir, tout le monde a quelque chose dans la main à manger. Et ensuite, il y a des traditions qui viennent de l'Empire chinois. Par exemple, pour le Nouvel An, il y avait des grands festins. Et par exemple, on offrait des raviolis à manger à l'empereur. Et en fait, ces raviolis-là sont devenus un peu un signe de prospérité et que maintenant, tout le monde fait à l'occasion du Nouvel An chinois en famille.
Donc en fait, je veux participer à un Nouvel An chinois. Passion ravioli.
Exactement.
Vous revenez donc de votre séjour à Shanghai, étudiante. Vous revenez à Paris. Comme vous êtes une fille sage et obéissante et structurée, vous rentrez en cabinet de conseil.
Exactement.
Vous êtes heureuse ?
Alors, pas du tout. Je savais que je voulais entreprendre. Donc, à la sortie de l'école de commerce, je savais que je voulais entreprendre un jour un projet. Par contre, je n'avais pas encore les idées et pas encore les épaules. Je ne me sentais pas encore le courage de me lancer à ce moment-là. Et donc, j'ai fait du conseil pour apprendre. Par contre, je me suis complètement ennuyée à travailler pour des entreprises du CAC 40 françaises. Et du coup, je me suis sentie... vraiment, je dépérissais. Je ne vibrais pas pour ces projets. Et moi, j'avais vraiment besoin d'être passionnée par ce que je fais. Je suis quelqu'un de passionné.
Céline Chung, comment fait-on à ce moment-là, quand on a cette histoire, ce poids familial, ces attentes, pour tout à coup envoyer tout bouler, d'une certaine façon, et lancer sa propre affaire?
Ça a été un an finalement de réflexion. Je savais que je voulais entreprendre et du coup, je commençais à noter toutes mes idées sur un carnet. Et toutes mes idées étaient autour de la cuisine. Et ensuite, j'ai eu une espèce de en voyage. Je me suis projetée un jour, moi, tenir un restaurant, comme je les aimais à Shanghai et à Paris. Et j'avais très envie, en fait, aussi de remoderniser la cuisine chinoise. J'avais envie de la rendre cool. J'avais envie qu'on se dise, je vais aller dans un endroit super sympa, super cool, je vais emmener mes amis. Et je voulais qu'on puisse dire, on va dans un restaurant chinois, parce qu'en fait,
ça sera hyper
pas.
Bon.
Et ça sera hyper bon, et ça sera hyper beau.
Casser les clichés, en fait.
Exactement. Et ça, je le portais en moi. Parce que je trouve que c'est une cuisine qui est savoureuse, complexe, et elle mérite en fait qu'on la connaisse à sa juste valeur et qu'on lui rende un peu sa beauté. Et donc là, j'ai démissionné. Mais un peu vraiment comme... Enfin, une fois que j'ai eu ce feeling, j'ai démissionné un peu sur un coup de tête, sans backup derrière.
Oui, mais ce qui en même temps vous empêchait de faire marche arrière.
Exactement, je n'avais plus le choix. Et en fait, quand on a
drame
plus le choix...
Drame familial ou pas, Céline ?
Alors, pendant les...
Cris de joie ou effondrement ou larmes
Non, ça a été... j'ai senti sur leur visage, ok, elle l'a fait. Donc en fait, on ne peut plus rien dire. Et ils m'ont juste dit, bah, j'espère que ça va marcher pour toi, ma fille, quoi.
Elle s'attable.
Alors, ce qui est intéressant aussi, Céline Chung, c'est que dans ce projet, d'abord, vous avez fait des restaurants à identité très forte, notamment graphique, mise en scène, mais vous n'êtes pas toute seule non plus dans ce projet. Vous avez trouvé un partenaire.
Exactement.
Alors, est-ce que vous faites partie de cette génération, est-ce que vous êtes une bonne représentante de cette génération qui aime l'idée de la collaboration, du partage?
Oui. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Oui, j'adore le partage. Et d'ailleurs, on fait une cuisine de partage. Tous les plats sont à partager. En fait, j'ai bien compris en fait, que toute seule, j'allais aller peut-être moins loin. Même si on peut être talentueux et fort dans plein de domaines, on n'est pas fort dans tous les domaines. Et le restaurant, en fait, c'est un univers mais qui est très très complet. C'est à la fois une gestion d'entreprise, mais aussi il faut être chef, il faut savoir gérer des cuisines, il faut connaître le métier de la salle, c'est un ballet, c'est une orchestration. Et voilà, il faut maîtriser aussi l'image de marque, le branding.
Et puis c'est un univers où les marges...
elles sont très faibles.
Voilà.
Exactement. Donc l'enjeu financier est encore plus important. Et donc dans tout ça, j'étais partie pour le faire seule, mais j'ai rencontré Billy Femme, mon associé. Coup de foudre. Coup de foudre. Même vision sur la cuisine asiatique qu'on voulait porter sur Paris. Complémentaire. Voilà, moi j'étais beaucoup plus calée sur le concept, la cuisine, et lui beaucoup plus sur les opérations et la gestion. Et en fait, on a décidé de partir tous les deux à Shanghai pour prendre des cours de cuisine. Parce que lui ne connaissait pas vraiment la cuisine chinoise, il est d'origine vietnamienne. Et donc, on est partis ensemble faire le tour de tous les restaurants shanghaïens et on a pris des cours de cuisine ensemble. Et ça a validé finalement notre complémentarité et notre association.
J'ai eu la chance d'aller à Hong Kong, à Taïwan notamment, et d'y manger des xiaolongbao chez Tin Tai Fung,
oui,
qui est une adresse un peu mythique. Le Tin Tai Fung d'origine, je tiens à préciser, car cette enseigne aujourd'hui se trouve à peu près partout sur le sud-est asiatique et notamment aux États-Unis. Et j'avais rencontré le patron de Tin Tai Fung à l'époque.
Incroyable.
Oui, tout à fait. Oui. Et je lui ai dit, mais quand ouvrez-vous à Paris? Mais elle m'a dit, mais on y pense, mais c'est très compliqué parce que le travail des raviolis nécessite énormément de main-d'œuvre. Et ça, l'Europe est complexe à cause du coût de la main-d'œuvre. Comment faites-vous pour réussir à proposer de sublimes raviolis ici à un tarif finalement très abordable?
Ça a été notre vrai challenge. Et en fait, nous, si on tient, c'est parce qu'on a des restos où on a la chance d'être remplis midi et soir et même d'avoir en fait la queue devant nos restaurants.
Et donc,
en fait, et plusieurs services. Et en fait, notre clé pour tenir en fait ce coup et tous ces gens, c'est la rotation des tables. Donc c'est vrai qu'on fait tourner plusieurs fois finalement nos tables et c'est ce qui nous permet voilà, de maintenir en fait un équilibre économique. Mais c'est sûr que par rapport à tous mes autres confrères restaurateurs, je n'ai pas du tout, j'ai un coût salarial qui est beaucoup plus élevé. Et donc c'est même très compliqué à justifier auprès des banquiers parce qu'en effet on est beaucoup plus élevé que tout le monde.
Alors, on va en venir au cœur de l'affaire. Que mange-t-on chez la Bao Family?
Alors,
moi, j'y suis venue plusieurs fois, donc je vous raconte. Hein. Des paniers vapeur avec donc ces bouchées vapeur minutes, dont certaines, les fameux xiaolongbao, dans lesquelles il y a une sorte de bouillon. C'est absolument divin. Un petit peu de légumes. Alors, il y a une excellente salade de concombres, des aubergines sautées. Alors, frites sautées.
Exactement,
un mélange
c'est
des deux. Un petit peu caramélisé et pimenté. Une poitrine. Alors, quand on aime le gras comme moi, on se régale. Une poitrine de porc longuement mijotée qui est servie avec un bouillon. Il y a des recettes qu'on ne trouve pas forcément classiquement dans la cuisine, en tout cas dans ce qu'on est habitué à manger dans les restaurants chinois en France.
Oui.
Et une carte assez courte aussi.
La carte courte, c'est vraiment pour valoriser nos produits et être sûr qu'en fait, chaque assiette va sortir avec la meilleure des qualités. Donc ça, c'était un vrai choix. Et après, moi, ce que j'ai envie de proposer, en tout cas dans nos cartes, c'est de faire découvrir les classiques de la cuisine chinoise et montrer que c'est une cuisine, en fait, du quotidien. Et c'est pour ça qu'on est rentré en fait, par les bao. Parce que c'est un petit peu un plat qui est intemporel. Et surtout, le xiaolongbao, c'est le produit... un produit qui est hyper complexe, parce qu'il faut un équilibre incroyable entre la pâte, la farce et le bouillon. Et c'est cet équilibre-là qui fait un peu la magie quand on l'a en bouche, parce que ça explose et puis on est étonné. Et il y a un mélange de textures qui est hyper intéressant. Et du coup, je voulais à la fois avoir une proposition de panier vapeur assez large, avec un produit hyper bien réalisé, et comme en Chine, du coup, plein de plats à partager. Mais du coup, des classiques, nouilles sautées, riz sauté, légumes sautés, et bien sûr des plats signatures, des belles pièces de viande. Parce que finalement, la cuisine chinoise, c'est aussi plein de méthodes de cuisson différentes, et je voulais aussi montrer la variété, en fait,
des
saveurs et des savoir-faire.
Vous avez 3 restaurants aujourd'hui dans la Bao Family. Petit
oui.
Bao,
oui.
Gros Bao et Bleu Bao.
Oui.
Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que chacun de ces établissements est très différent. Alors, on y retrouve des constantes.
Oui.
Un super service, quelque chose d'assez cool, des cartes formidables, des plats pas toujours les mêmes d'ailleurs,
oui.
Et merveilleusement réalisés. Et il y a une caractéristique que je trouve absolument formidable et qui, moi, correspond à 200% à l'époque, c'est le style. Chaque restaurant a un style très fort, et notamment je pense à Gros Bao et Bleu Bao. Mm-hmm. Gros Bao qui est rouge,
oui.
Et Bleu Bao qui est bleu.
Oui.
Est-ce que ça faisait partie de votre concept dès le départ, Céline Chung ?
Pour moi, un restaurant, c'est un univers complet. Bien sûr, ce qu'il y a dans l'assiette, c'est notre cuisine, c'est ce qu'on propose, mais tout autour est tout aussi important, parce qu'on a envie de s'y sentir bien. Et surtout, je voulais faire voyager les gens. Je voulais faire voyager les gens dans un espace-temps entre Paris et Shanghai. Et du coup, pour ce voyage, il fallait bien sûr que la décoration, le design, en fait, prennent partie intégrante de l'expérience. Et du coup, je voulais construire des univers marqués très fort. Et du coup, j'ai choisi des couleurs assez emblématiques chinoises. Donc le rouge de Gros Bao, c'est le rouge qu'on peut retrouver dans les temples en Chine. Le bleu de Bleu Bao, c'est le bleu de la porcelaine. Et du coup, j'aime bien tirer la couleur jusqu'au bout. Donc à Gros Bao, on retrouve quand même un univers beaucoup plus urbain, beaucoup plus street, beaucoup plus cantine, inspiré des cantines hongkongaises. D'ailleurs, les lampes, on les a achetées à Hong Kong, les tables, on les a achetées à Hong Kong.
Je précise, quelques centaines de lampes.
Oui, les 200 lampes au plafond. Et apporter le côté très design dans l'air du temps, à ces éléments qui rappellent les traditions chinoises.
En quoi être une femme est-il, d'après votre expérience, Céline Chung, particulier dans l'aventure que vous avez menée ?
On a souvent l'impression qu'être une femme peut être... enfin, est contraignant dans le milieu de la restauration, parce que c'est un milieu, en effet, dominé par des hommes. En fait, en entrepreneuriat, en général, il y a beaucoup d'hommes. Et moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et en fait, je pense que le fait de ne pas avoir ces pensées un peu limitantes, ça m'a permis d'avancer à chaque fois, et même de jamais recevoir, en fait, des messages
de ce type.
Je trouve en plus qu'être une femme en cuisine, c'est génial parce qu'on a une sensibilité. C'est un métier qui est complètement humain. On gère des chefs, des cuisiniers, des chefs de rang. Et c'est que des hommes, en fait, qui partagent leur passion et qui délivrent une expérience. Et donc, c'est un métier qui est complètement humain. Moi, je pense qu'être une femme, pour comprendre les hommes et avoir de l'empathie et parler avec eux aussi le cœur, je trouve que c'est un avantage. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que nous, on a un taux de turnover qui est très faible dans la Bao Family.
Alors, ce qui est rare.
Ce qui est très rare.
Ce qui est très rare, surtout pour
Exactement.
L'instant.
Exactement. Et nous, on a un turnover qui est très faible. Et on aime les histoires de gens qui ont suivi l'aventure depuis le début et qui, aujourd'hui, sont toujours là et participent à mettre les pierres à l'édifice. Moi, je pense vraiment que le fait que je sois une femme, c'est plutôt un avantage. Et
c'est plutôt un atout.
C'est plutôt un atout, exactement.
Est-ce que dans votre histoire, dans l'histoire qui vous a mené aujourd'hui à être la co-constructrice de 3 restaurants et de cette réussite Bao, entre guillemets, est-ce que vous diriez qu'il y a une histoire de femme aussi, dans le sens où la cuisine est venue par la lignée maternelle ?
Oui, c'est toujours nos mamans qui font la cuisine. Et moi, je pense que j'avais besoin de renouer avec ma mère, justement. Et je crois que finalement, les restos, c'est un peu un hommage à elle. Et vraiment, et ça je l'ai compris que récemment encore une fois, à tout ce qu'elle nous a transmis à travers la cuisine, à son éducation, à sa dévotion.
Est-ce qu'il y a certaines des recettes d'ailleurs qui sont présentées ici, qui sont des recettes de votre mère, de votre grand-mère ou des recettes familiales ?
Oui, à Gourbao j'avais fait le poisson vapeur, c'était la recette de ma mère. Et ici j'ai voulu mettre l'œuf céleste qui a été retravaillé. En fait c'est un œuf à la vapeur. Et ma mère me faisait toujours cet œuf à la vapeur accompagné d'un riz et une sauce soja quand j'étais malade. C'est le plat réconfort par excellence.
Le doudou.
Le doudou, exactement. Et ici, j'ai voulu remettre un plat de maison, mais le sublimer, donc avec un dressage, des légumes de saison et une sauce un peu plus travaillée. À travers ça, je peux aussi rendre hommage finalement à la cuisine qu'elle nous faisait.
Quels sont les projets à venir ? Parce que j'imagine que quand on est entrepreneur dans l'âme, comme vous l'êtes, Céline Chung, il est difficile d'envisager de s'arrêter.
En effet, on a des projets à venir. À très très court terme, on va faire un pop-up à Marseille, fin avril, donc pour le printemps. Ensuite, on a un autre projet, une nouvelle couleur. Vous avez l'info en exclusivité.
Mondiale. À Paris toujours.
Voilà, à Paris toujours, qui va arriver. Voilà.
Et alors ça, c'est prévu pour la fin de l'année ?
Oui, voilà, exactement. Donc c'est prévu pour 2022. Et après, c'est vrai que je suis au-delà de, je pense, mon âme entrepreneuriale. Je pense que je suis plutôt une âme créative. Et moi, ce qui me plaît, c'est de créer des choses qui n'existent pas. Et ça, je ne sais pas encore. Donc, je sais que ça va venir. Ça va venir dans le temps. Et je ne sais pas encore.
Le livre que vous avez publié aux éditions Hachette, qui s'intitule donc Bao Family, la cuisine chinoise entre tradition et modernité, qui est paru il y a assez peu de temps, donne de mémoire, il y a 80 recettes.
80 recettes, exactement.
80 recettes qui vont du wonton frit à la crevette, à la soupe porc et maïs, gâteau de radis et autres. Alors ça y est, là je suis prise. Char Siu Bao.
Oui.
Bon, je prononcerai très mal, mais voilà. L'idée, c'était de poursuivre cette expérience, de poursuivre cette... comment dire, presque une forme de révélation de ce qu'est le réel de la cuisine chinoise.
En fait, j'avais très envie de démocratiser la cuisine chinoise. Donc on le fait à travers nos restaurants et je trouve ça génial de pouvoir le faire en plus à la maison. Et sortir aussi des frontières de Paris, parce que pour l'instant nos restos sont à Paris.
Même si Marseille bientôt.
Exactement. Et j'avais envie de faire découvrir la vraie cuisine chinoise dans tous les foyers finalement. Et que chacun puisse avoir sa propre image aussi de cette cuisine-là qui est très très loin de ce qu'on peut retrouver finalement dans les traiteurs ou dans les restos qu'ils ont l'habitude de faire.
Est-ce que vous diriez, Céline Chung, que vous êtes une représentante de la nouvelle génération des restaurateurs chinois ?
Oui, je pense que en effet, nos restos en tout cas incarnent un peu cette nouvelle cuisine chinoise. Et ce que j'aime bien, c'est que moi, j'ai pas envie de la dénaturer. C'est pour ça qu'on prend des recettes authentiques, traditionnelles, mais qu'on les modernise et qu'on les met à l'air du temps.
Ou les interprète un
tout petit peu. Mais ce qui est important pour moi, c'est que les gens comprennent les classiques et vraiment l'essence de la cuisine. Donc à la fois c'est nouveau, mais à la fois on rend hommage à la tradition.
Dernière question qu'on pose quasiment à toutes nos interviewées. Est-ce que vous pensez que les femmes peuvent changer le monde à travers les assiettes ?
Ah oui, c'est un beau rêve. Les femmes mettent tout d'elles, en fait, dans les assiettes quand elles cuisinent. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de messages et beaucoup d'émotions qui passent par les assiettes. Et je pense que... Et puis la cuisine, c'est aussi politique, dans le choix des produits qu'on va mettre, dans le choix des personnes avec qui on va travailler. Donc, c'est des choix, en fait, qui se passent dans les assiettes. Et du coup, elles diffusent des choses à travers ça.
C'est ce qu'on appelle du soft power.
Exactement.
Merci infiniment Céline Chung pour cette leçon de food power, d'empowerment, bref je parle pas du tout à la française là. En tout cas merci de nous avoir raconté votre histoire, merci de nous avoir fait partager un peu ce qu'est l'aventure Bao pour ce nouvel épisode d'Elle sa table. N'hésitez pas à le partager, le commenter, le liker et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.
Elle sa table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elle sa table en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.